Bonjour et bienvenue sur le podcast du pouvoir d'achat et de conseil anti-crise, PAEF.live. Je suis Edouard Daoud, animateur et coach en finances personnelles. Quel plaisir d'accueillir Bassem Mejri, dirigeant et fondateur des éditions Frégate, spécialisé dans les finances personnelles. Éditeur du best-seller The Millionaire Next Door, les surprenants secrets des riches américains, record absolu avec plus de 3 millions de ventes. Bonjour Bassem Mejri. Je te propose de te présenter.
Bonjour à toi. Merci de me recevoir dans ton émission. C'est un grand plaisir et un grand honneur. Alors moi, à la base, je suis professeur et en fait, je suis un grand lecteur d'ouvrages de finances personnelles à titre privé. Et donc, je suis au cours de mon parcours de lecture, je suis tombé sur ce livre-là en fait que je souhaitais lire en français. Et qui malheureusement n'était pas disponible en français. Et donc un petit peu au culot, un petit peu à l'audace, j'y ai vu une opportunité business, mais pas que, aussi une opportunité de donner la chance au public francophone de pouvoir découvrir ce classique des finances personnelles. Et donc j'ai pu contacter la maison d'édition américaine qui m'avait indiqué très clairement que les droits étaient disponibles en fait. Et donc j'ai saisi l'occasion qui m'était présentée en fait.
Très bien, Bassem Mejri, tu vas presque devancer dans ma prochaine question.
Okay.
Dis-nous pourquoi tu as acquis les droits de The Millionaire Next Door, les surprenants secrets des riches américains. Comment as-tu connu le livre?
Alors j'ai connu le livre donc par un parcours de lecture parce que je lis beaucoup de livres de finances personnelles. C'est vraiment une passion personnelle de pouvoir percer le secret un petit peu des riches, qu'ils soient américains ou pas. En fait, c'est pas là l'essentiel. C'est vraiment de percer un peu le secret de cette mentalité et de comprendre comment font les gens qui ont eu la chance de pouvoir accéder à la liberté financière, à l'indépendance financière. Et donc voilà, c'est un classique. Alors moi, je suis très branché personnellement sur la culture américaine, que ce soit à travers les séries, la musique et tout. Donc j'ai découvert Millionaire Next Door un peu dans des recherches sur Internet, sur le web. Il revenait régulièrement sur Instagram, je le voyais dans les classements des top 10, top 5, parfois top 3. Et donc moi personnellement, je le mets au même niveau que Père riche père pauvre de Robert Kiyosaki, qui est aussi un classique qui se vend énormément et qui a eu un grand retentissement auprès du public à travers le monde entier, mais également francophone. Et donc voilà, je voulais en fait, c'est comme rétablir une espèce d'injustice. Le livre était laissé pour compte, donc je me suis dit bon, avec mes moyens, avec ma force de persuasion, je vais lui donner peut-être une chance d'exister et je vais le mettre à la disposition du public français et francophone.
Très bien. Donc, j'ai bien aimé le passage de rétablir un petit peu l'injustice et un côté un petit peu Robin des Bois. Donc, alors, en France, on a connu une période très compliquée avec les Gilets jaunes qui a révélé au grand public le problème du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est pas un peu provocateur de recommander un livre sur la vie des millionnaires?
Non, pas du tout. Alors déjà, il faut pas voir les millionnaires comme étant une sorte de société secrète ou des gens qui sont totalement des extraterrestres. Au contraire, le livre Millionaire Next Door, malgré son titre, il est là pour dire qu'en fait, être millionnaire, c'est un processus en fait qui peut être naturel. C'est juste un processus d'acquisition, d'accumulation de richesses et de patrimoine, et c'est vraiment possible pour toute personne en fait. Alors la chose, c'est que plus on commence tôt dans sa vie, plus on a de la chance de devenir millionnaire tôt, et plus on commence tard, plus on décale l'échéance. Mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment faisable. Et le livre, il est là justement pour briser un petit peu ce complexe, pour dire qu'en fait, être millionnaire, c'est vraiment quelque chose de presque anodin.
Très bien. Alors, le livre fournirait un petit peu d'anecdotes sur la vie des millionnaires, mais si on devait en garder un seul, ça serait lequel? Raconte-nous un petit peu ce qui t'a marqué à la lecture de ce livre.
Alors, il y a énormément de choses qui m'ont marqué à la lecture de ce livre. Je dirais que il y aura beaucoup d'anecdotes à raconter. Je vais en raconter une tout de suite. Mais avant de raconter l'anecdote en question, c'est plus l'état d'esprit du livre qui m'a touché. Et c'était vraiment le message du livre, c'est que devenir millionnaire, en fait, c'est quelque chose de vraiment réalisable, quoi. Alors, concernant l'anecdote en question qui m'a marqué, c'est l'histoire d'un Texan, d'un riche propriétaire au Texas, en fait, qui avait une société de location de mobile home aux États-Unis. Et en fait, il y a des investisseurs européens qui se sont présentés dans son entreprise. Et en fait, quand ils sont arrivés dans son entreprise, comme on était au Texas, c'est un peu local, c'est un peu couleur locale. Donc tout le monde était avec des jeans, des Santiago et le chapeau, comme on peut voir dans les différentes séries. Et en fait, les investisseurs européens et japonais ont pas pu faire déjà la différence entre les employés, les patrons. Donc ils étaient, tout ça pour dire, en fait, à l'image du livre, que le millionnaire, il est diffus dans la masse. On peut pas faire ça, la différence en fait. Il y a pas de signe ostentatoire qui peut dire que bah toi t'es millionnaire, toi t'es pauvre. Il y a pas ce côté-là. Déjà ça c'est le premier versant de l'histoire. Et une fois après bon les investisseurs ont pu trouver quand même le bureau du directeur qui était habillé exactement. J'insiste encore une fois comme ses salariés et les investisseurs européens japonais ils lui ont dit mais pourquoi comme ça on peut pas faire la différence, il y a même pas une cravate, il y a même pas un signe distinctif. Et ce que leur a répondu cet entrepreneur, ce patron, leur a dit un proverbe en fait américain qui dit celui en fait comme c'est référence au Texas, il leur a dit celui qui a un grand chapeau ne peut pas avoir de bétail. donc ça veut dire que celui qui veut trop entre guillemets se pavaner, et il peut pas investir sur son fonds de roulement, sur l'acquisition de biens qui vont lui permettre de prospérer.
Très bien. En fait, là, on est un petit peu rentré dans le cœur du sujet, les valeurs. Donc, il est question de mode de vie des riches. On dit que les millionnaires ont un mode de vie normal dans le livre. Quelles sont les sept valeurs, en fait, justement, de ce livre?
Les sept valeurs de ce livre, alors tout d'abord, le millionnaire est quelqu'un, malgré la croyance populaire ou médiatique, le millionnaire est quelqu'un de très simple, malgré ce qu'on veut bien nous vendre dans les médias. C'est quelqu'un d'économe, c'est quelqu'un qui passe du temps à faire son budget en amont de ses dépenses. Donc, il visualise déjà les mouvements financiers avant qu'ils aient pu avoir lieu,
se présenter.
Donc, il est capable de gérer sa trésorerie en temps réel. C'est quelqu'un qui a une compagne qui est comme lui économe, ou si c'est une femme qui a un compagnon
qui
est économe. Donc c'est l'esprit du couple qui est frugal, d'accord, parce que si on a une personne avec qui on vit et qui est pas sur la même longueur d'onde là-dessus, il ou elle va juste nous faire les poches et puis notre budget va tomber à l'eau en fait.
Voilà. Justement, nos éditeurs en fait, les éditeurs du PAEF sont des familles en quête d'améliorer leur pouvoir d'achat.
Oui.
En quoi aujourd'hui en fait Millionaire Next Door peut être une solution pour ces familles?
Alors pour moi c'est une solution parce que c'est un livre qui apporte tellement. Donc en fait le livre va leur donner va les rééduquer financièrement, parce que en général sur ces questions d'argent, comme ce sont des questions qui sont assez intimes, assez personnelles, ce sont les valeurs en général qui ont été transmises par nos parents ou par nos grands-parents, enfin par notre famille quoi en général. Et en fait, le livre va venir un petit peu court-circuiter un peu les schémas qu'on a reçus de nos parents et notre famille au sens plus large. Et il va instaurer un nouveau logiciel, un nouveau système d'exploitation qui va nous donner une marge de manœuvre pour dire, moi je sais que pour m'enrichir, je dois d'abord épargner, je dois d'abord économiser, ensuite je vais investir, et ensuite je vais pouvoir récupérer les fruits de mon investissement dans un troisième temps. Donc ça nous rééduque, ça nous donne le chemin. Il y a tellement d'exemples dans le livre où les gens partent de zéro et arrive à constituer un patrimoine qui est intéressant. On se dit, à la fin, en fermant le livre, on dit, c'est possible, moi aussi, je peux le faire.
Oui, en parlant de logiciel à jour. Alors, contrairement aux ouvrages de gourous, ou contrairement aux ouvrages de la littérature sur les finances personnelles, le Millionaire Next Door est le fruit de 20 ans de recherche universitaire sur les finances perso. On est à 1000 lieues d'influenceurs surfant sur les stories. On est à 1000 lieues d'influenceurs qui se saisissent du sujet pour faire un petit peu de buzz. En quoi les conseils sont toujours d'actualité pour un livre qui est édité pour la première fois en 96?
Alors en fait, si tu veux, la vérité, une vérité, elle reste toujours vérité en fait. Elle change pas parce que les années changent. Si je prends un mantra très simple, traite les autres comme toi-même tu souhaiterais être traité. Ça c'est pas quelque chose qui va changer dans le temps. C'est pas parce qu'il y a eu 20 ans ou 1000 ans ou 2000 ans qui sont passés que cette vérité-là va changer. Donc le livre en fait en lui-même, ce que j'apprécie dans ce livre-là, c'est que c'est pas la parole d'une personne, d'un gourou, c'est pas l'expérience d'un individu. Ce sont deux universitaires qui sont Thomas G. Stanley et William Danko, qui ont fait un questionnaire composé de 250 questions. Et en fait, avant de faire le questionnaire, en fait, il y a un processus où ils ont réussi à repérer où les millionnaires vivaient aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils ont fait une espèce de géolocalisation avant l'heure, parce qu'on était aux prémices d'Internet. Ils ont fait une géolocalisation en se basant sur des données fiscales, patrimoniales. Et la première chose qu'ils se sont rendus compte quand ils ont fait cette géolocalisation, c'est ce que révèle, donc je spoil un tout petit peu le livre, mais pas beaucoup.
Pas beaucoup, oui.
Pas beaucoup. C'est qu'en fait, ils se sont rendus compte que les millionnaires aux États-Unis et ailleurs dans le monde ne vivaient pas forcément dans les quartiers chics. Ils étaient pas forcément à Beverly Hills ou au centre de New York. Ils étaient souvent dans des villes moyennes, fondues dans la masse. Et en fait, le fait d'avoir un niveau de vie de la classe moyenne, était un levier pour eux pour engranger encore plus de patrimoine et de l'investir.
Alors, très intéressant, Bassem, dans l'imaginaire popularisé par Hollywood et les médias, les millionnaires, en fait, on les voit bling-bling avec un patrimoine important, accumulant des richesses. Est-ce que les millionnaires sont des nantis ou plutôt des self-made men?
Alors, le livre encore, qui est basé sur des données statistiques, chiffrées, qui est une étude sociologique, comme tu l'as dit, nous prouve que, à plus de 80%, les millionnaires actuellement dans le monde, et aux États-Unis plus particulièrement, sont à 80% des gens qui se sont fait tout seuls. Alors effectivement, le livre n'est pas là pour dire qu'il n'existe pas d'héritiers, il existe des héritiers, ce qui est tout à fait logique parce que les gens transmettent à leurs enfants, à leurs petits-enfants, mais dans 8 cas sur 10, ce sont des gens qui sont partis, je veux pas dire de zéro, mais presque, et qui ont réussi à se faire tout seuls.
Donc c'est un petit peu le mythe du rêve américain. Là, nous faisons face en fait à un contexte de crise sanitaire couplé d'une crise économique. Est-ce qu'il est encore possible de devenir millionnaire, de devenir riche?
Alors la réponse est oui. Je dirais même plus qu'avant, parce qu'il y a encore plus d'opportunités, il y a encore plus de chances de le devenir, le monde est connecté d'une façon globale grâce à Internet. La question, est-ce que je suis prêt à prendre le risque? Est-ce que je suis prêt à saisir ma chance? Est-ce que je vais savoir fructifier les opportunités qui se présentent à moi ou non? Donc je dirais en 2021, et pour le futur, pour les 10, 15, 20 prochaines années, malgré, je sais qu'il y a une crise sanitaire, elle est très profonde, il y a une crise économique qui est également très profonde, mais à côté de ça, je veux signaler à tous les auditeurs, à tout l'auditoire et à toute l'audience qu'il existe à côté de ça des opportunités qui sont maintenant mondialisées, elles sont globales. Choisissez juste un domaine qui vous parle, qui fait partie de votre passion, dans lequel vous pouvez investir d'abord petit et puis grossir au fur et à mesure, et voilà.
Alors, je parle plutôt à titre personnel, mais l'auditoire ou l'audience en fait du podcast PAEF.live va sans doute se reconnaître. J'ai consulté mon compte en banque ce matin. Il reste 80 euros pour finir le mois. Est-ce que devenir millionnaire veut toujours dire quelque chose? Est-ce que faut-il vivre aujourd'hui dans un hôtel particulier?
Non, on n'est pas obligé de vivre dans un hôtel particulier déjà. Comme le livre l'indique, comme Millionaire Next Door l'indique, les riches, entre guillemets, je mets des gros guillemets parce que ça veut tout dire, ça veut rien dire. On va dire les gens qui ont accédé à la liberté financière ne vivent pas dans des endroits riches, ne vivent pas dans des quartiers chics. Ils n'ont pas un niveau de vie élevé. Ils n'ont pas 52 voitures. Ils ont en général un véhicule, maximum un véhicule pour monsieur et pour madame, et ça s'arrête là, pas plus. C'est-à-dire qu'ils essayent de compresser au maximum leurs dépenses. Ensuite, c'était quoi la première partie de la question?
Est-ce que on peut encore... est-ce que devenir riche aujourd'hui veut toujours dire quelque chose?
Oui, alors oui, absolument, ça veut dire quelque chose encore aujourd'hui. Alors le sens que moi je lui donne personnellement, c'est accéder à la liberté financière, c'est-à-dire être en capacité de pouvoir s'arrêter de travailler, de laisser les actifs travailler pour nous, à savoir de l'immobilier, si on est branché immobilier, des appartements, des rendements locatifs à travers des parkings, des maisons, des appartements, à travers la bourse, à travers des actifs comme les obligations. Donc tous ces outils-là peuvent travailler pour nous, doivent travailler pour nous. On doit faire travailler l'argent, on doit pas travailler pour l'argent, on doit le faire travailler pour nous. Et donc oui, ça a un sens, à condition que nous on lui donne un sens. Et le sens qu'on peut lui donner, c'est que ça donne aux libérés du salariat. C'est ça l'objectif de l'argent. C'est qu'on ne doit pas être obligé le lundi à 8h ou le mardi à 7h de pouvoir se réveiller, de se dire bon, voilà, il me reste 80 euros, j'ai tant de factures à payer avant la fin du mois, je vais rentrer dans le rouge, je vais devoir envoyer un mail à mon conseiller bancaire pour qu'il me débloque une petite surface de financière pour finir le mois. Donc c'est ça le sens que moi je lui donne. Alors oui, millionnaire, bien sûr, c'est un titre un peu glamour, c'est joli, c'est beau de dire voilà, millionnaire, pas millionnaire, mais en fait leur vrai objectif, c'est la liberté financière, c'est l'indépendance.
Oui, et alors très bien. Le podcast PAEF aborde et recommande un mode de vie frugal. Le livre en parle et recommande aussi ce style de vie. Est-ce que finalement, la finalité ne serait pas de devenir indépendant, devenir libre et aussi devenir frugal? Est-ce que c'est pas un peu ça?
Alors en fait, ta question elle est très intéressante, mais en fait c'est l'inverse. Il faut d'abord être frugal pour devenir indépendant. C'est pas le fait d'être indépendant qui va faire de nous des gens frugaux. C'est la frugalité et le fait d'être économe, c'est la condition sine qua non qu'on doit placer avant. C'est la première partie du wagon, si tu veux. D'accord? C'est comme si quelqu'un il voulait être hyper musclé, hyper sportif. Bah, il doit d'abord avoir une hygiène de vie, des conditions de vie qui vont faire en sorte que la conséquence, c'est qu'il va avoir un corps qui va être hyper musclé, hyper fort. C'est pas tu vois, donc au début, il faut être frugal, économe, et ensuite on va pouvoir retirer les fruits de ça.
Ah ben, c'est très intéressant. Alors, parlons un petit peu de choses concrètes comme à quel moment, à quel âge, est-ce qu'il y a un profil déterminé pour devenir millionnaire?
Non, il y a pas d'âge. Il y a pas d'âge. Je dirais tout est une question. Alors, il y a pas d'âge, il y a pas de sexe, il y a pas de genre, il y a pas d'origine. Tout le monde peut devenir millionnaire à condition d'être motivé, d'être déterminé et d'avoir la bonne méthodologie, de s'y prendre correctement. Et c'est ce que va nous donner le livre, il va nous donner une espèce de structure, des étapes à respecter pour pouvoir rentrer dans ce processus.
Très bien. Bassem Ejri, comment The Millionaire Next Door a changé ta vie? En quoi cela peut inspirer les auditeurs de ce podcast?
Il a changé ma vie parce que il a fait de moi un éditeur. Donc j'ai pu créer ma maison d'édition suite à ça en me basant sur ce classique des finances personnelles. D'ailleurs, il y a d'autres projets qui arrivent, d'autres livres qui vont suivre la même trame.
Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler à travers le podcast.
Oui, je reviendrai avec grand plaisir. On fera une autre émission sur le prochain ouvrage. Donc il a changé ma vie parce que c'est un peu comme toi. On essaye de partager ce qu'on sait avec les autres. C'est-à-dire que la connaissance, le fait de pouvoir partager ça avec l'audience, avec les gens, nous ça nous comble de bonheur parce que on a rempli notre mission quelque part. On a transmis le flambeau à d'autres personnes. Et on leur dit, en fait, c'est possible. Vous pouvez le faire. Vous pouvez vous éduquer financièrement. Par exemple, là, quand je regarde les livres, si tu veux, au Canada, aux États-Unis, je dirais, ils ont 20 ans, 30 ans d'avance sur la France. On est vraiment en retard sur ces questions-là. Et notre retard, notre non-connaissance des choses, fait de nous des gens qui sont pas libres. En fait. Pas libres, pas seulement financièrement, mais pas libres dans nos têtes, parce qu'on est entravés dans notre avancée.
Tout à fait. Alors, avant de devenir éditeur, parce que c'est à la fois une passion et un métier, j'en profite pour te demander quel est ton moment préféré en fait du livre.
Le passage que je préfère du livre.
Tout à fait.
Le passage que je préfère du livre, je dirais, ce sont les différents exemples, ce sont les différents cas d'études qu'il y a dans le livre où on voit des gens. On voit en fait l'opposition, parce qu'en fait le livre est un petit peu schématique. Il nous présente, en fait, si tu veux, le livre. Il présente deux catégories de personnes. Ce qu'on appelle les PAR, P-A-R, c'est un acronyme, les gens qui sont les prodigieux accumulateurs de revenus, et les SAR, c'est-à-dire les sous-accumulateurs de revenus, c'est-à-dire que dès qu'ils reçoivent leur salaire, ça y est, tout est parti dans des dépenses. Bon, on s'est fait plaisir, quoi, on a consommé. Et donc, c'était toujours intéressant dans le livre de voir cette différence de mentalité entre la personne qui va dire « Non, là, je vais pas dépenser, je vais investir, ou je vais ouvrir un livret A et je vais mettre ça sur un plan d'épargne action pour investir sur des actions dans lesquelles je crois. » Donc cette différence de mentalité, le fait de se d'éloigner de la consommation pure et dure comme on la connaît avec les pubs, le marketing, la télé, internet et tout, c'est ce qui m'a le plus touché dans le livre, en fait.
OK, nous sommes sur le podcast du pouvoir d'achat et de conseil anti-crise. Est-ce que tu peux nous affirmer que le livre va nous fournir un bon ou un beau conseil anti-crise et de pouvoir d'achat? Est-ce que c'est un bel investissement d'acheter ce livre?
Alors, le livre actuellement, le livre vaut 25€, 24,99€ si je peux être précis. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le fruit de 20 ans de travail des deux universitaires, donc Thomas G. Stanley et William Danko, qui l'ont écrit. Et eux-mêmes, dans le livre, indiquent en fait que la valeur du livre, elle vaut plus de 1 million de dollars. Ils l'ont estimé à plus d'un million de dollars en termes de connaissances, de savoir, de contenu, de richesse de contenu. Moi personnellement, je l'estime à 5 millions de dollars. Maintenant, avec le temps qui est passé et que le fait que la valeur de leur savoir a été validée et prouvée. Juste un mot sur le livre rapidement. Il a le record, tu l'as dit au début. Il a le record de semaine numéro 1 au New York Times. C'est-à-dire que le New York Times fait une liste de best-sellers et Millionaire Next Door est resté 172 semaines en numéro 1, classé numéro 1 dans leur classement, en fait, dans la liste. Donc le livre, je dirais que son investissement, il est ridicule, quoi. Par rapport à ce qu'il va nous apporter, nous, dans notre vie.
Donc il y a, il y a un retour sur investissement qui est...
Fois 1000, fois 100 000.
Très bien. Est-ce que, à titre personnel, parce que tu as acquis les droits, tu es éditeur, en fait, de ce livre et bien d'autres qui vont venir, est-ce que, personnellement, tu ambitionnes de devenir millionnaire?
C'est normal. On peut pas être passionné de finances personnelles. Mais en fait, si tu veux, millionnaire, c'est juste une barrière symbolique. C'est un espèce de statut qui veut rien dire, en fait. Moi, j'ambitionne de devenir libre financièrement, de devenir indépendant, de pouvoir me dire, bah là, si je veux, j'arrête de travailler.
Il y a une chose qui m'a frappé à la lecture du livre, c'est que il n'y a pas de quartier siglé millionnaire, il n'y a pas un profil sociologique, un profil en fait physique. Et peut-être que parmi nous, avec les gens qu'on côtoie au quotidien, nous avons des millionnaires, mais on les connaît pas.
Bah oui, c'est sûr. Bah d'ailleurs, le titre du livre, si on pouvait le traduire littéralement. Moi j'ai préféré garder le titre anglais parce que je trouvais plus punchy, plus sexy. Ce serait le millionnaire d'à côté ou bien le millionnaire de la porte d'à côté. Donc c'est vraiment encore un message subliminal dans le titre pour nous dire que les millionnaires en fait sont tout autour de nous et que c'est probablement les futurs lecteurs et futurs et les auditeurs qui peuvent le devenir aussi. C'est vraiment pour dire que c'est à la portée de tous.
Il y a aussi le sous-titre en fait. Les surprenants secrets des riches américains. Le côté surprenant.
Alors, le côté surprenant, c'est que ça va à l'encontre de nos croyances. Parce que nous, on croit que le millionnaire, bah, il a une Rolex.
Il a un jet privé.
Il a une Rolls Royce. Il a une Lamborghini. Donc, ce sont des choses qui, c'est des jeux.
Il a des domestiques. Il a des valets.
Il a des majordomes. Donc, il a des propriétés à plusieurs dizaines d'hectares. Et en fait, non. C'est tout l'inverse. C'est quelqu'un comme vous, comme toi ou moi, vous et moi. C'est juste quelqu'un qui s'assoit dans son bureau, qui prend 2 heures de son temps la semaine, et qui fait son budget, et qui gère ses finances, et qui voit sa richesse augmenter, alors, dans le temps. Alors, il faut être patient. Le livre ne vend pas une solution miracle en un clin d'œil, ou en un claquement de doigts. Ça, c'est vrai. Et ça demande de la patience. Ça demande de l'organisation. Ça demande de la discipline. Ça demande de l'autodiscipline. Il faut résister aux envies qu'on pourrait avoir de se payer beaucoup de choses.
Ce qui épouse totalement la philosophie du podcast PAEF.live, parce que ça fait plus d'un an que j'aborde, là je suis quasiment à 80 épisodes où j'aborde la question du pouvoir d'achat, de la frugalité, de changer de style de vie sur le long terme. Alors, j'ai vraiment envie de recommander les livres en fait aux éditeurs qui ne l'ont pas encore lu ou qui n'ont pas eu l'occasion de le lire et qui nous écoutent en ce moment. Comment on peut se procurer le livre, sur quelle plateforme?
Alors, c'est très simple. On peut l'avoir sur Amazon. On peut le commander directement à la FNAC en se présentant auprès du vendeur. On peut le commander chez De Citre, Les Furets du Nord, pareil, en se présentant au vendeur. Le livre, il est disponible dans les bases de données, donc ils peuvent le commander. On le reçoit sous 48 heures. Ou on peut le commander dans n'importe quelle librairie de France et de Navarre. Juste vous demander le livre Millionnaire Next Door en français chez Frégate Édition et vous le recevez sous 48 heures.
Très bien. On peut aussi en profiter pour l'offrir hein, donc aux proches. Donc si on pense que pour soi on n'en a pas besoin, mais c'est un livre que je recommande vivement. Donc merci Bassem Mejri pour ton temps.
Merci
pour les solutions et les informations que tu nous as apportées en fait et que tu as apportées aux éditeurs de podcast. Je recommande de retrouver l'interview qui sera disponible sur tous les réseaux sociaux, également YouTube, le blog en fait du site. Et je vous recommande d'aller très vite vous procurer en fait le livre. C'est le livre en fait à lire à cette fin d'hiver et au printemps. Pour bien préparer la rentrée. N'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à partager l'interview, mais aussi à partager cet épisode qui permettrait aussi à chacun de comprendre que devenir millionnaire, ce n'est pas ce que l'on croit. On peut commencer à tout âge, on peut être issu des milieux aisés ou pas aisés, mais c'est la volonté, c'est en changeant, c'est en faisant sa propre évolution qu'on va accéder à la liberté, qu'on va accéder à l'indépendance financière. Donc le but et la fin en soi n'est pas d'être nanti, mais c'est de pouvoir être libre, ne pas être obligé de travailler toute la journée.
Merci.
Merci pour ton temps. J'espère que nos auditeurs en fait pourront nous laisser leurs commentaires, pourront nous faire des retours et aller aussi laisser des recommandations sur Google,
bien sûr.
Notamment sur le livre. Merci à toi.
Merci
et
infiniment.
Je te dis à très bientôt.
À très bientôt. Merci. You know, man.